Voilà, nous sommes en novembre. En novembre, c'est novembre. Il y a des festivals en novembre. Il y a notamment le Festival Next, hein, un grand festival euro-régional. Et puis, il y a aussi un festival. Alors, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de la danse. C'est, en fait, de la philosophie. Et chaque année, nous avons le plaisir de présenter ce festival dans cette émission avec donc une édition qui est, comme souvent, thématisée. Et là, il s'agira de fiction, entre parenthèses, S. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir pour nous en parler celui, justement, qui a mis en œuvre un petit peu cette thématique. Il s'agit de Nassim El Kabli. Bonjour, Nassim.
Bonjour, merci de votre invitation.
Donc, un festival qui se déroule cette année, on va dire, du 4 novembre au 13 décembre, c'est bien ça?
Exactement, oui, du 4 novembre au 13 décembre, et puis les manifestations se prolongent jusqu'en juin en réalité, hein, puisqu'il y a toute une série de rencontres dans toute la région. Des Hauts-de-France.
Alors, c'est vrai que ce festival est inscrit depuis longtemps à l'agenda de novembre et il fait des émules, puis aussi des partenariats. C'est vraiment un centre d'intérêt. Hein. C'est devenu une célébrité quoi, régionale.
Une véritable institution, et vous faites bien de le rappeler, d'autant plus ancrée dans le territoire que c'est la 25e édition cette année. Donc une sorte de date anniversaire. Et à mesure que la manifestation a pris de l'ampleur, eh bien on s'est aussi élargi dans le territoire, hein, puisque, comme on vient de le préciser, au-delà de Lille et de la métropole lilloise, des rencontres sont prévues à Amiens, à Compiègne et dans bien d'autres villes de notre belle région.
Est-ce que le moment, ou j'allais dire l'heure, hein, est propice à la philosophie?
Grande question. Je dirais que le moment de la philosophie est un moment essentiel qui, d'une certaine manière, relève toujours de l'urgence. Mais ce qu'il y a de singulier aujourd'hui, à travers ce qu'on vient de traverser, hein, ces deux années extrêmement, extrêmement compliquées, cette urgence s'est redoublée, d'une certaine manière, et a pris une dimension encore plus vitale, peut-être. Dimension plus vitale, et ce besoin de philosophie, j'ajouterais, et c'est le bénéfice de Cité Philo, besoin de philosophie dans l'expérience du partage et de se retrouver après avoir été éloignés et mis à distance les uns des autres.
Est-ce que cet éloignement forcé a été peut-être pour certains aussi l'objet de l'occasion de découvrir ou de chercher un peu d'autres sources d'inspiration que les écrans habituels?
Sûrement, ça a été l'occasion de multiplier d'autres types d'expériences, mais je crois que tout de même, en tout cas ce qu'il y a de commun à chacun et à chacune, c'est vraiment cette expérience déceptive, douloureuse, difficile d'être séparés les uns des autres. Alors après, chacun a pu y prendre, trouver une forme personnelle pour traverser cette période.
Oui. Et s'intéresser peut-être à la philosophie pendant ce laps de temps d'un an pratiquement d'isolement.
Exactement. Alors, sûrement que certaines personnes ont pu prendre le temps de la réflexion et de se plonger dans des lectures. Et à un autre niveau, alors je ne sais pas si ça relève de la philosophie, mais en tout cas, ça relève d'une expérience de la pensée, d'un certain type d'expérience de la pensée. Je crois que tout le monde a été, de fait, confronté à soi-même et à la nécessité de la réflexion. Alors, elle prenait peut-être pas la forme de l'exercice philosophique en tant que tel, mais en tout cas, elle n'en demeurait pas moins de la réflexion et de la pensée.
Voilà. Donc, la réflexion, la pensée, c'est pour aussi aider les gens, les personnes, les hommes et les femmes, à vivre ensemble.
Exactement. À vivre ensemble, à vivre avec soi sous condition de l'autre, bien sûr, de pouvoir mieux être ensemble. Et donc, votre question permet aussi du coup de mettre le focus sur ce que signifie penser. Penser, c'est pas seulement cet acte singulier, réflexif, personnel. C'est aussi se confronter à l'autre, se confronter aux idées des autres et chemin faisant, réformer ses propres idées, nourries de celles des autres.
Avec, bien sûr, la sagesse en point de mire.
Avec la sagesse en point de mire. pas toujours évidente à atteindre.
Voilà, la philosophie. On pourrait passer quelques émissions à définir l'histoire de la philosophie. Peut-être ça intéresserait des philosophes de refaire un petit point sur les 2000, voire même plus, de philosophie.
Exactement.
Bon, là, on n'aura pas le temps, visiblement. Mais on pourrait quand même dire à quand remontent les premiers philosophes et comment ils ont pu être transmis, ceux qui sont restés, pourquoi ils le sont. Et voilà, est-ce qu'on est... Alors pour eux, j'imaginais qu'ils voyaient aussi le monde dans le cadre d'une fiction, les premiers. Peut-être certains dans des grottes ou dans... je ne sais pas. Voir un petit peu à quoi ressemblait un monde qui leur apparaissait d'une certaine forme mais qu'ils pouvaient imaginer autrement.
Envisager la naissance de la philosophie à partir de ce concept de fiction est à la fois audacieux et tout à fait intéressant. Si on prend l'un des premiers philosophes, en tout cas de la tradition occidentale, Platon, l'usage de la fiction, des fictions, que ce soit à travers les dialogues qu'il mettait en place, qu'il écrivait, ou que ce soit à travers l'usage des mythes dans sa manière de construire sa philosophie, montre qu'effectivement il y a un usage de la fiction qui est proprement philosophique et que loin de s'opposer à l'exercice de la philosophie ou à l'exercice ou même à la vérité elle-même, la fiction la nourrit, la philosophie se nourrit de la fiction et inversement, voilà, la fiction nourrit la philosophie.
Et elle s'appuie sur la réalité ?
La fiction ?
La philosophie ?
La philosophie doit s'appuyer sur la réalité. C'est là où elle est... Je pense que c'est sa vocation aussi. Hein. Vous évoquiez l'exigence ou l'idéal, l'idéal de sagesse. Voilà, la sagesse doit s'ancrer dans une expérience concrète, palpable. Et donc oui, elle a vocation à retrouver le réel et à ne jamais le quitter d'une certaine manière. Même s'il est parfois nécessaire, pour penser le réel, pour mieux être dans le réel, de se tenir peut-être un peu à distance, légèrement à l'écart, à la marge.
Alors, pour certains publics et certains philosophes, on va dire on participe d'une société qui est abordable. Pour d'autres, c'est un haut niveau, c'est un plus haut niveau, enfin, c'est un niveau différent, avec un code verbal, des pratiques différentes, plutôt dans la théorie, etc. Comment on fédère tous ces publics dans le même festival ?
C'est très juste. Alors ça, c'est vraiment une exigence de philosophie, hein, de la philosophie telle qu'elle est pratiquée, dans Cité Philo en particulier. Hein, le festival, d'ailleurs, s'appelle Cité Philo. Hein, c'est vraiment la philosophie dans la cité. Et nous sommes très attachés à cette dimension politique et sociale du partage et de l'expérience de collective de la pensée. Et donc, comment toucher le plus possible, d'une certaine manière ? Eh bien, je crois que déjà, d'une part, par la diversité des thèmes que nous proposons, à travers la fiction cette année, par exemple, eh bien, on va s'intéresser au rapport entre fiction et jeux vidéo, hein, ce qui peut toucher un certain nombre un public vraiment très très large et intergénérationnel. Nous allons bien sûr aborder la question du cinéma, du rapport entre cinéma, documentaire. Nous allons aborder la question des rapports entre la fiction et la musique, voilà, de manière un peu inattendue. Donc je dirais donc, diversité des thèmes et aussi diversité des interlocuteurs et interlocutrices. Le fait que nos invités, nos intervenants et nos intervenantes sont des philosophes, des historiens, des praticiens aussi, hein, des artistes. Nous allons recevoir le réalisateur Mathieu Amalric et comédien Mathieu Amalric pour une rencontre autour de la question de la frontière entre le documentaire et le cinéma, la fiction. Voilà, donc diversité des thèmes, diversité des interlocuteurs et des interlocutrices. Je crois que voilà, tout ça permet de rendre le plus accessible possible la philosophie, qui n'est pas seulement, comme on pourrait effectivement le craindre dans nos impressions premières, cette espèce de discipline surplombante, difficile d'accès. Elle peut l'être, mais je crois que toute véritable philosophie suppose une écoute de celles et ceux qui sont avec nous et avec lesquels nous sommes en situation de dialogue.
Voilà, donc vous êtes à l'écoute du public, des gens avec qui vous dialoguez, puis le public est aussi censé être en situation d'écoute. Pour certains, ça peut être plus compliqué que pour d'autres. Est-ce qu'il y a des moyens de réécoute pour justement approfondir, revenir sur des sujets, recreuser les choses, voire même après aller sur d'autres pistes pour compléter ce qui est dit?
Alors, l'ensemble des rencontres sont enregistrées et diffusées sur le site de Cité Philo. Et par ailleurs, un certain nombre de rencontres seront filmées. Alors, toutes ne le seront pas pour des raisons techniques. Hein. En revanche, toutes seront disponibles en audio en podcast. Ouais.
Donc, on connaît, hein, nous, en radio, tout le pari entre ce qu'on peut réaliser en termes d'exposé sur une scène, dans une conférence, etc. Et le passage à la radio ou le travail d'adaptation pour la radio. C'est parfois pas les mêmes médias, quoi. Je veux dire, on est sur des formes qui doivent être un petit peu travaillées différemment. Comment vous arrivez à capter vos sons, etc.? Vous avez des équipes techniques?
Alors, il y a des équipes techniques et une équipe technique pilotée par Myriam Pleine-Maison, qui est responsable donc de la logistique à Cité Philo et qui est vraiment une personne maîtresse dans tout le dispositif du festival. Et donc, alors, je serais incapable de vous préciser les modalités imprécises. En revanche, oui, il y a toute une équipe technique qui travaille beaucoup durant toute cette période et même en amont pour préparer et ensuite pour retravailler, pour rendre le son plus propre. Et sûrement donc plus attractif aussi et plus audible.
Voilà. Donc, le thème, on l'a dit, hein, fiction, donc jusqu'au 13 décembre, hein, ça démarre demain, c'est ça, hein ?
Alors, ça démarre, la leçon inaugurale du philosophe Philippe Sabot commencera le 5 novembre, ouais. Mais dès demain, effectivement, Cité Philo commence, puisque nous avons le plaisir, l'honneur et la chance de recevoir Matthew Crawford, le philosophe américain et garagiste, qui viendra présenter son nouveau livre, Prendre la route.
Et ça se passera où ?
Ça se passera, alors, si mes souvenirs sont bons, à la gare Saint-Sauveur.
Ah oui, d'accord. La gare Saint-Sauveur, bon, un lieu central, hein, à Lille, bien connu maintenant. Hein. C'est l'endroit où il y a quand même beaucoup de manifestations, beaucoup de spectacles, beaucoup de concerts.
Il s'y passe beaucoup de choses.
Ouais. C'est un lieu bon, très dynamisé aussi par la ville, hein, on peut dire ça. Donc, vous apportez votre touche particulière en définissant fiction comme thème par rapport aux années précédentes, est-ce que c'est un grand changement ou est-ce qu'on est dans un complément utile?
Alors, je tiens d'abord à préciser que c'est tout un collectif, hein, j'ai eu la chance de copiloter ce thème avec Frédéric Gendre, mais nous avions, on était toute une équipe, tout un collectif de 8 personnes. Voilà, c'était une précision importante. Alors concernant, je dirais que chaque édition a sa spécificité. Fiction n'est pas plus spécifique que ne l'ont été les thématiques des 24 années précédentes. Toutes ont leur nécessité à un moment donné de l'histoire de ce festival. Alors on essaye vraiment, et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, on essaye vraiment d'être à l'écoute, justement, d'une double exigence, celle d'être utile au public et celle à la fois de répondre à des questions et des problématiques qui se présentent peut-être à un moment donné de notre histoire. Et il nous a semblé que fiction, et il nous semble encore que fiction, et j'espère que le festival le démontrera, cette notion de fiction s'est d'autant plus imposée dans le contexte pandémique que nous avons connu, puisque force est de constater que la réalité a dépassé la fiction. Et que, par ailleurs, durant nos confinements respectifs, chacune s'est trouvé à avoir un usage de la fiction. Hein. Je pense que les abonnements Netflix ont explosé. Chacun a pu se reconcentrer dans des lectures, de romans, etc. La fiction a été vraiment un un complément de nos vies, pour reprendre votre expression. On en a eu besoin, ça a été essentiel.
Donc j'imagine que dans ces temps un peu complexes, voire troublés, les sociologues auront une part aussi d'approche intéressante dans cette histoire qu'on vit là, d'une certaine manière, et à compléter, bien sûr, à mettre en phase avec la pensée philosophique.
Exactement. Oui, oui, je crois que les années à venir vont être très intéressantes pour étudier cet événement mondial que nous venons de traverser. Et la philosophie, la sociologie auront beaucoup à dire. Mais je crois que ça interroge l'ensemble des pratiques humaines. Je crois que c'est une véritable révolution anthropologique, au fond. Ça va réamener la science à se réinventer, à repenser les virus de manière générale, les pandémies, ça va amener aussi peut-être pourquoi pas la linguistique à repenser l'apprentissage du langage, nos masques qui viennent comme ça peut-être aussi un peu troubler notre rapport à la langue. Je pense qu'on peut vraiment étendre à l'ensemble des disciplines cette nécessité d'avoir à repenser nos vies, à repenser le monde aussi plus largement. Et je crois que c'est aussi une des ambitions de Cité Philo. On précisait tout à l'heure, ce ne sont pas seulement des philosophes qui seront là, ce sont vraiment des chercheurs issus de tout horizon, des chercheurs et chercheuses, bien sûr.
Alors, certains imaginent, dans leur fiction ou dans leur délire, l'homme immortel. Finalement, est-ce qu'il ne suffirait pas que la philosophie le soit ?
Mais ne l'est-elle pas déjà, finalement, par la transmission, par la filiation ? Effectivement, vous rappeliez cet âge qui n'en est plus un, 2000 ans, cet âge de la philosophie, et au regard de la prolixité, de la multiplicité des productions en philosophie aujourd'hui, je pense par exemple à l'actualité éditoriale de Cité Philo, plus de 60 rencontres, donc plus de 60 nouveaux ouvrages qui vont être présentés durant cette édition. Eh bien, voilà, montre que au fond la philosophie se perpétue grâce à la tradition et que de ce point de vue-là, elle est immortelle. Mmh. Alors, ceux qui la portent de manière singulière ne le sont pas, évidemment. Mmh. En revanche, ils perpétuent, par la transmission, ce geste philosophique.
Voilà, donc elle est immortelle et en même temps, elle s'étend en termes d'audience, en termes de public, à des gens qui n'étaient pas forcément en capacité technique d'appréhender la réflexion philosophique. Là, maintenant, il y a des médias pour ça, il y a des rencontres, il y a des thèmes qui peuvent passionner, concentrer l'intérêt.
Exactement, des travaux de vulgarisation. Mmh. Alors, je suis un peu sceptique avec ce terme de vulgarisation. Effectivement, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a des livres pour enfants, des livres pour enfants d'initiation à la philosophie. Effectivement, les modalités de diffusion de l'exercice philosophique se sont multipliées. Et du même coup, il y a un élargissement du public. Élargissement d'ailleurs qui répond aussi à une attente. Je crois que il y a un véritable besoin de penser. On évoquait tout à l'heure l'urgence de la pensée, l'urgence du geste philosophique, l'urgence de l'acte du philosophé. Et je crois qu'il y a aussi un besoin, mais un besoin qui n'est pas seulement une réponse vitale, existentielle, nécessaire, mais qui est aussi un besoin qui relève peut-être aussi du plaisir de mettre en mouvement ce qu'il y a de peut-être plus noble en nous, notre intelligence et notre intelligence collective.
Alors, il y a le plaisir de la pensée, le plaisir de l'émettre aussi, le plaisir des mots, pourquoi pas.
Exactement. Le plaisir d'apprendre. Vous parliez de la figure du maître, le plaisir d'enseigner pour le maître, et le plaisir, bien sûr, des mots. Mais peut-être, je préciserai en tout cas que ce n'est peut-être pas tant un plaisir des mots pour les mots, ce qui est du reste tout à fait légitime, qu'un plaisir de la construction d'une pensée par la médiation des mots, puisque c'est l'exercice philosophique par définition, de la construction donc par les mots d'une pensée qui touche quelque chose du monde ou qui touche quelque chose de son expérience, Et de ce point de vue-là, oui, ce plaisir passe par les mots et la médiation des mots. Ouais.
Alors, est-ce que la nature des mots ou la richesse du vocabulaire et des nuances d'une langue peuvent amener des pensées différentes, des réflexions philosophiques différentes d'un pays à l'autre ?
Ça me semble effectivement essentiel, ce point, d'autant plus juste, d'autant plus pertinent que on le voit dans les effets de traduction. La difficulté qu'il peut y avoir à traduire, je sais pas moi, un philosophe comme Heidegger, par exemple, hein, ou Nietzsche, etc. Il y a, puisque la langue est aussi la traduction d'un certain type de rapport au monde, traduction qui se traduit, si j'ose dire, dans la grammaire, dans le lexique, dans la richesse d'un lexique, évidemment, parler, c'est déjà représenter quelque chose du monde, et du même coup, ça ne peut que travailler de l'intérieur la pensée. Si bien que la manière dont une pensée va s'exprimer dans la langue allemande, ou dans la langue, ou en chinois, ou en français, ou en arabe, eh bien, évidemment, sont autant de manières de décliner la philosophie, l'exercice de la pensée.
Est-ce que la, entre guillemets, mondialisation enrichit ou réduit ?
Question redoutable. Alors, redoutable parce que ces effets de mondialisation, on le voit bien, et le monde de la recherche, et le monde de la recherche scientifique ou philosophique n'y échappe pas. L'usage, massif de l'anglais tend à la fois à produire des effets extrêmement positifs, puisque elle rend possible la communication entre les nations, entre les peuples, et parallèlement, elle perd peut-être quelque chose, elle perd du même coup et inévitablement quelque chose qui fait la spécificité de l'acte de penser, c'est précisément son enracinement dans une langue. Et on rejoint la question de tout à l'heure sur les mots. Les mots ne sont pas que des abstractions aux significations homogènes, univoques. Non, derrière un mot, il y a aussi toute cette représentation du monde, représentation culturelle, toute cette aussi quelque chose de l'ordre de la sensibilité, la sonorité d'un mot.
Alors, on a les mots, bien sûr, dans la philosophie. Est-ce qu'on a aussi l'émotion ?
Je le crois fondamentalement. L'émotion de l'idée trouvée, l'émotion de... D'ailleurs, l'émotion n'est pas toujours positive. Mmh. Hein, l'émotion, elle peut être aussi parfois dans
l'irrationnel.
Dans l'irrationnel, exactement. Mmh. Ou aussi même dans la difficulté à comprendre. Se confronter à une page de Hegel, ça produit des émotions, hein, parce que on a le sentiment comme ça, il faut se battre avec le texte, et ça fait aussi partie de la jouissance hein, de l'exercice. Mais les mots et l'émotion, oui.
Donc c'est aussi tout l'objet d'un festival comme Cité Philo, d'amener des personnes à se retrouver autour là, d'un thème, hein, autour de réflexions, de discussions, d'échanges aussi. Il y a des temps d'échange ?
Exactement, toutes les rencontres, que ce soit pour le thème, hein, ou que ce soit pour l'invité d'honneur, Jacques Rancière cette année, ou que ce soit les rencontres relatives à l'actualité éditoriale, toutes les rencontres se déclinent en deux temps. Une présentation par un auteur, par un ou une auteur. Ensuite, 30 minutes sont imparties, sont réservées pour les questions du public, qui peut, interpeller l'intervenant ou l'intervenante.
Voilà. Donc, en général, ces questions, vous demandez aux gens de les préparer ou c'est à l'issue, justement, d'une écoute, d'une réflexion qu'émerge la pensée sous forme de questions ?
Les questions sont vraiment issues d'un mouvement spontané, puisque, par ailleurs, on découvre la présentation le jour de la rencontre. Donc, ce sont des questions qui émergent, effectivement, de la rencontre.
Voilà. Donc, on va pas pouvoir passer en vue tous les événements qui sont là, il y en a énormément. Hein. Donc on va renvoyer bien sûr les auditeurs sur le site citéphilo.org.
Oui.
Et là, le programme est là. Donc on a dit ça démarre le 4, donc demain.
Oui.
Et puis ça va durer jusqu'au 13 décembre. Et donc on peut reparler de Jacques Rancière quelques instants ?
Bien sûr. Alors, Jacques Rancière, donc, comme chaque année, le festival, nous avons un invité d'honneur. Donc, cette année, ce sera Jacques Rancière. Il y aura 4 rencontres qui se tiendront du 11 au 14 novembre au Palais des Beaux-Arts. Voilà. Donc, l'invité d'honneur, donc, Jacques Rancière. Donc ça, c'est vraiment un temps fort et un volet important du festival. Ce volet a été piloté par le philosophe Jean-François Rey, membre de Cité Philo. Et,
comment on peut le présenter, Jacques Rancière ?
Jacques Rancière, je dirais, difficile de présenter un homme avec une œuvre aussi considérable, mais il y a deux volets essentiels, hein, qui sont le volet politique et le volet aussi esthétique, d'autant plus intéressant que le thème de cette année, fiction, recouvre aussi ces deux dimensions, à la fois politique et esthétique. De ce point de vue-là, Jacques Rancière, c'est l'invité d'honneur, assurément, qui est un temps indépendant, autonome, à part entière. En revanche, il a assurément toute sa place dans le thème.
On pourrait renvoyer les auditeurs sur des œuvres qu'il aurait créées. Enfin, est-ce qu'il y a une bibliographie de Cité Philo ?
Alors, il n'y a pas de bibliographie en tant que telle de Cité Philo, et d'autant plus que Jacques Rancière a écrit un nombre considérable d'œuvres. On pourrait, je ne sais pas, renvoyer spontanément au Maître Ignorant, par exemple.
Très bien. Voilà. Et le mieux, c'est bien sûr de découvrir donc plusieurs dates, on l'a dit, avec Jacques Rancière.
Les dates de Jacques Rancière sont du 11 au 14 novembre.
Voilà, bah je pense qu'on a un petit peu une meilleure idée de comment on va s'engager cette édition. Hein. Donc on a dit, hein, c'est l'édition 25, c'est énorme.
Exactement.
Un quart de siècle.
C'est énorme.
Ah, c'est énorme.
Et donc, ce n'est qu'un début.
Ce n'est qu'un début. Donc on représentera, on fera un petit point d'étape de Cité Philo dans 15 jours, dans cette même émission, avec je ne sais pas qui.
Avec Jacques Lemière, avec Jacques pour Lemière, le volet ouais, cinéma.
Pour le volet cinéma, ben, parfait. L'audiovisuel sera, comme chaque année, également présent dans ce festival. Merci beaucoup, donc, Nassim El Kabli, et puis bon festival.
Merci beaucoup. À bientôt.